Et ça, ça vient pas de moi, là, et vraiment, on a assisté à plusieurs présentations d'économistes, là. Le prix des billets, et je sais que c'est une croyance qui est forte, n'a rien à voir avec le salaire des joueurs. Ça dépend des marchés. Ça dépend des marchés, sinon c'était relié au salaire, ce serait le même prix partout. Donc, tu sais, tu baisses les salaires de moitié demain matin, Marc, je te garantis que les prix baisseront pas au Yankee Stadium.
Ben, écoute.
C'est une question de marché.
Ouais. Ben, mais là, que tu me dises que ça n'a aucun rapport, là, je serais pas d'accord. Il y a sûrement un lien quelque part.
Au jeu! Deuxième prise! Compte complet!
Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzereau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte complet. Alain Huzereau en compagnie de Marc Griffin le mois de février. Ça veut dire que les camps d'entraînement sont tout prêts, on peut leur toucher. Marc, il y a encore des décisions à prendre de la part de joueurs, d'agents, d'organisations. On va commencer par écoute, Max Scherzer avec les Blue Jays de Toronto. Écoute, on attend évidemment le dossier d'Alonso, on va y revenir tantôt. Est-ce que tu l'as vu venir ou tu pensais que le personnel de partant s'était réglé, toi, avec les trois vétérans, avec Rodriguez et Bolden Francis? Est-ce que tu pensais que c'était réglé, toi?
Bon, écoute, tu sais, on connaît Alain. Le besoin de profondeur, surtout au niveau, tu sais, considères l'âge de certains partants, tu disais, ben, peut-être qu'effectivement, on avait besoin d'une petite bouée de sauvetage qui pourrait nous aider un peu. Là, les rumeurs se sont accentuées dans le cas de Scherzer. Écoute, c'est un pari correct. Moi, je trouve ça correct, dans le sens que ce n'est pas un contrat à long terme, donc t'es pas pris, là, pendant 2-3 ans avec un gars comme Scherzer, qui a atteint, l'âge de 40 ans. Et tu regardes aussi, Alain, c'est que il n'y a pas une tonne de départs au cours des deux dernières saisons, là, j'en conviens. Mais lorsqu'il lance, par exemple, il lance très bien. Tu regardes encore, c'est la moyenne de points mérités. Bon, oui, il donne des coups de circuit, il va en donner encore. Ça a été ça toute sa carrière, mais je pense qu'il est quand même capable d'aller chercher certains retraits. Évidemment, il s'en va là. Pas à Toronto comme sauveur, mais ça va là comme quatrième partant. On verra aussi qu'est-ce que ça va donner avec un gars comme Francis. Puis est-ce que Rodriguez, qui lui aussi est un peu fragile l'année passée, peut-être que dans un autre rôle, on pourra le voir un petit peu plus souvent. Donc, c'est pour ça correct, mais il ne faut pas s'attendre à un gars qui va lancer, selon moi, le 200 manches puis qui va aller chercher 35, 32 départs. Bon. C'est pas là qu'on s'en va. Je pense que c'est... mais ça ajoute une certaine profondeur. Là, les gens qui me disent « Ouais, mais c'est bon dans le vestiaire. » C'est pas mauvais. Mais tu sais, Alain, t'as de Gossman, t'as Bassett, t'as Berrios, dans le sens que ce sont des gars qui ont déjà beaucoup d'expérience. Fait qu'un gars comme Manoa, qui éventuellement va revenir, ben, il y avait déjà des gars d'expérience autour de lui. Donc, c'est pas mauvais d'avoir un gars qui a gagné la Série mondiale. C'est pas mauvais du tout d'avoir un gars qui a beaucoup d'expérience. Mais c'est pas pour ça qu'on lui a donné 15 millions. Tu comprends? On va lui donner des manches. On va espérer qu'il va donner des manches de qualité. Puis c'est ça. Donc, ça ajoute. C'est pas mauvais non plus, Alain, pour la suite des choses. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut attirer un autre joueur autonome alors que t'as un Scherzer qui a dit, ben, gars, je vais y aller pour un an. Donc, ça, c'est des éléments, tout ça qui entre en ligne de compte.
Tu vises quoi, 20 départs de la part de Max Scherzer? Tu regardes, bon, depuis 21, il n'y en a pas eu 30. Ça a été très difficile au cours des deux dernières années. En fait, Marc, ça fait plusieurs années que même quand il va loin dans sa saison, qu'il casse au mois d'octobre.
Deux choses que je retiens, Alain, c'est les blessures, ce sont le bas du dos et la fatigue du bras. T'sais, c'est vraiment ça. Donc, alors, il va falloir considérer la façon dont on va l'utiliser. Et puis, souvent, un cinquième partant, il saute des tours des fois. Est-ce que c'est dans ce rôle-là qu'il va être un peu plus efficace? Mais chose certaine, c'est pas un gars que je pense... Écoute, 20 départs, ce serait un excellent pari, selon moi, s'il se rend là. Écoute, seul l'avenir nous le dira. Mais c'est sûr que c'est pas... Tu regardes les deux dernières années, Alain, il avance en âge, donc... Mais bon, il a subi l'opération, il s'en met en santé. Est-ce que ça va donner de meilleurs résultats cette année? On verra bien, mais chose certaine, je trouve ça correct, moi, comme pari de la part des Blue Jays de Toronto.
Écoute, tu m'amènes quelque part, Marc, parce que chez les Red Sox de Boston, il n'y a rien de confirmé, mais on parle d'une rotation à 6 partants. Compte tenu, on a parlé de l'âge tantôt, compte tenu de l'âge des partants des Blue Jays, de la situation de Scherzer, on en a parlé depuis quelques années. Est-ce que tu penses qu'on pourrait s'en aller de ce côté-là chez les Blue Jays?
Ben, moi, je trouve, moi, la 6 partants, je l'aime dans le sens où tu fais en sorte que tes partants vont un petit peu plus loin. Tu sais, un partant qui lance aux 6 jours et tu lui donnes 5 manches, là. Moi, je trouve que ça tient pas la route. Mais si t'es partant, t'es prêt à les garder un petit peu plus longtemps, puis bon, là, tu vas me dire que les statistiques avancées, le troisième tour et tout ça, bon. Mais si t'es capable de les étirer un peu, le fameux 6 manches, 3 points, là, qui était un apport de qualité, mais si tu leur donnes un 6 puis tu les fais lancer la 7e si tout va bien, moi, j'ai pas de problème à avoir une rotation de 6. Je trouve même que c'est brillant à la limite. Mais... Tu sais, je veux dire, encore une fois, là, si tu les fais pas affronter un troisième tour, c'est que là, tu vas exposer ta relève encore plus, puis bon. Alors, si tu as à faire ça, étire les départs, évidemment, il faut que le rendement soit là, mais étire le départ, parce que le 6 partant, si tu étires un peu les départs, vont aider tes releveurs aussi. Tu sais, puis ils vont enlever un peu de tâches, évidemment, de manches lancées à tes releveurs, qui, on le sait, en fin de saison, ça devient la clé, là, puis le début des séries. Donc, moi, j'avais pas ça, une rotation à 6 partants, bien honnêtement. Puis, effectivement, compte tenu de l'âge, ça pourrait être une direction dans laquelle les Blue Jays, dis-je, vont se diriger, ouais.
Oui. Ou ça peut être pendant la saison, à un moment donné, on décide pendant 2 semaines d'y aller à 6, puis bon... certains sont capables d'en prendre plus que d'autres. Enfin, ça m'intrigue.
Mais tu sais, Alain, il faut faire attention parce qu'il y a une routine. Hein? Tu sais, chaque lanceur a une routine. Fait que si tu y vas à 5, vas-y à 5. Mais je ne suis pas sûr que tu peux aller à 5, puis là, on va aller à 6, puis on va venir à 5, puis on va retourner à 6. Ouais. Là, écoute, je ne suis pas lanceur, mais je sais, pour en avoir côtoyé plusieurs, il y a des routines entre les départs. Alors, il va falloir... Il faut que la décision se prenne quand même assez tôt, selon moi, on puisse adhérer dans cette direction-là.
Bon, d'autres dossiers, Marc, on se répète encore, le dossier d'Alonso et de Bregman. Puis, écoute, mon évaluation du dossier d'Alonso, on va commencer par lui, là. Puis, je n'ai pas d'informations privilégiées. Mais ce que je pense, honnêtement, c'est que la meilleure offre actuellement sur la table vient des Blue Jays. C'est juste qu'Alonso voudrait revenir avec les Mets. Mais tant que les Mets... n'égaleront pas ou ne seront pas proches de ce que les Blue Jays offrent. Regarde, son orgueil lui dit « Non, je ne peux pas accepter ça. » Moi, j'ai l'impression que c'est là que ça se joue.
Probablement. Et plus on étire le tout, Alain, donc plus on s'approche, je te parlais qu'on touche bientôt au camp d'entraînement, plus ça sent le contrat d'un an ou de 2 ans ou de 3 ans, mais ou des options de sortir du contrat après un an. Là. Tu sais, tu comprends, là, c'est-à-dire beaucoup d'argent pour l'année prochaine, avec des options. Moi, je vois pas des contrats de 5-6 ans, que ce soit Bregman ou Alonso, là, rendus à ce stade-ci. Si on avait eu des contrats à long terme, selon moi, on aurait signé avant. Là, un peu comme Flaherty vient de signer avec les Tigers, c'est-à-dire que c'est 2 ans, mais après la première année, il peut déjà sortir de son contrat. Ça va ressembler à ça, moi, selon moi, ce qui va se passer avec Alonso, parce que c'est ce qu'attend des Mets de New York. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Ça me semble assez évident. Pourtant, tu sais, écoute, c'est un drôle de dossier, hein, le dossier de Alonso. Il y a des agents, imagine-toi, qui ont tenté de communiquer avec lui pour dire « Hey, ta stratégie fonctionne pas, viens-t'en chez nous. » Et là, il a fallu que Alonso dise aux agents « Hey, écoutez, non, j'en ai un agent, je reste avec. » Puis c'est Scott Boras, son agent. Donc, c'est une drôle d'histoire. Moi, je suis d'accord. Je sais que la meilleure offre, c'est celle des Blue Jays qui est sur la terre pour Alonso. C'est ce qui a été indiqué. Mais moi, il veut retourner avec les Mets de New York. Bregman, je suis un peu moins certain qu'il veut retourner avec les Astros, même si Altuve qui a mentionné qu'il ça ne dérangerait pas de changer de position pour permettre à Bregman de revenir. Mais Alonso, c'est sûr que les Blue Jays auraient besoin d'un autre coup de bâton. Mais si tu me demandes entre Alonso et Bregman du côté des Jays, moi, j'irais avec Bregman. Parce que Bregman t'amène une polyvalence que Alonso ne t'amène pas. Et là, évidemment, si tu amènes Alonso, que Vlad ne signe pas à la date limite, enfin, au début du camp d'entraînement, alors que lui s'est dit, moi, je négocie pas une fois que le camp d'entraînement a commencé, ben là, tu as toutes sortes de rumeurs, puis de patentes, puis de distractions autour de ça. Donc, côté baseball, moi, j'irais avec Bregman, si on me donnait le choix entre Bregman et Alonso. Mais si Alonso atterrit avec les Blue Jays, ben c'est sûr que là, ça te donne quand même un cœur de formation avec pas mal de puissance.
Oui. Quelle place qu'on lui donnerait? Moi, c'est le nombre d'années, Marc. C'est pas compliqué. Là. C'est assez clair là, que dans le cas de Bregman, puis le nom de Machado avait été mentionné, ce qui est un non-sens parce qu'on a les deux n'avaient pas le même âge. Bregman, dans les deux cas, on a peut-être viser un peu plus haut que notre véritable valeur. Dans le cas d'Alonso, c'est qu'il est unidimensionnel, Marc. C'est pas un bon gars, c'est pas un gars très rapide. Donc, tout ce qui lui reste, c'est un coup de bâton solide. Puis dans le fond, si tu voulais avoir quelque chose comme Alonso, tu aurais pu te tourner vers Jake Berger un peu plus tôt que les Rangers ont obtenu pour pas grand-chose. Je sais que ça peut sembler boiteux, Marc, mais ce n'est pas tant que ça. C'est deux joueurs qui n'ont pas de défense puis qui ont de la puissance.
Oui, puis tu sais, il ne faut pas oublier que Santander est là pour son coup de bâton. Alors, tu sais, c'est pas un grand voltigeur, c'est pas un gars qui excelle à ce niveau-là. Il n'est pas mauvais, là. Mais tu sais, tu veux l'utiliser comme frappeur de choix de temps en temps, comme tu vas vouloir utiliser Vlad comme frappeur de choix de temps en temps. Ouais. Alors, c'est pour ça que je préférais Bregman. Bregman peut jouer à récours, deuxième but, troisième but. Bon. Tu sais, en termes de polyvalence, moi, je pense qu'il serait mieux, les Blue Jays seraient mieux avec Bregman. Mais je pense que les Blue Jays ne sont plus dans le coup avec Bregman.
Ouais.
Mais ceci étant dit, ça serait bon d'avoir
Pas leur priorité.
Mais ça serait bon d'avoir un autre coup de bâton, Alain, du côté des Blue Jays de Toronto pour vraiment, là, se donner, c'est une chance de lutter avec les autres équipes.
Oui. Écoute, le dossier Bregman, je ne suis pas sûr que c'était une priorité des Blue Jays de Toronto.
D'accord.
Je regardais un petit peu l'avant-champ. Bichette, est-ce qu'on essaie de l'échanger? Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'un retour en santé, productif, ça ferait du bien. Je ne sais pas quels sont les plans pour Martinez, un autre à qui on peut laisser de la place. C'est le prospect numéro 1. Va revenir. Ça aussi, ça peut jouer dans l'équation. Écoute, le nom de Bregman t'associe aux Tigers de Détroit, puis on va parler des Tigers, Marc. Il y a beaucoup de jeunes. Là, si on s'en va avec Bregman, on a déjà embauché Gleyber Torres. Là, on ajoute Bregman. Les Tigers ont de l'argent. Ils ont décidé, puis c'est un peu logique dans un sens, puis ça n'est pas dans l'autre, parce qu'on a beaucoup de jeunes, Marc, à qui on pourrait faire de la place. Tu sais, on parlait de Sweeney, on parlait de Young. Cole Keith est obligé de changer de place parce qu'on vient d'embaucher Torres. Torkelson, s'il commence la saison avec les Tigers, regarde, je vais être le premier surpris. Donc, je ne sais pas exactement le plan des Tigers, c'est quoi exactement. On vient de faire des séries. Là, Flaherty revient. Bref, tu sais, je comprends Bregman, mais d'un autre côté, notre virage jeunesse, on fait quoi avec ça?
Ouais, c'est qu'on a goûté aux séries, tu l'as dit. AJ Hinch est là. D'ailleurs, je trouve ça brillant de la part de Flaherty de retourner à Détroit. Je pense qu'il s'attendait à un marché plus important pour lui. Mais là, il retourne à un endroit où, premièrement, ça a fonctionné. C'est là qu'il a repris un peu sa valeur.
Ouais.
Il aime l'instructeur des lanceurs, il aime son gérant. T'sais, il s'en va dans un endroit confortable. Ça, je trouve que c'était tellement important pour un joueur. Évidemment, avec un Tarek Skubo, soudainement, ça donne... on est allé chercher Alex Cobb, Tommy Canley, qui vient donner un coup de main aussi en relève. On est en train... Tu sais, les équipes de la centrale, les Royals ont fait des bonnes choses encore, vont être probablement les favoris dans cette division-là, mais tu sais, les Tigers, soudainement, Cleveland, qui est toujours là, même si on a effectué pas mal de changements, mais autrement dit, il y a toujours une fenêtre... selon moi, dans la centrale. Puis là, je trouve que ce que les Tigers font, c'est intéressant. Alors, on se dit, est-ce que d'ajouter un Bregman, c'est sûr que ça empêche un jeune peut-être de jouer un petit peu plus, Alain, mais à la fin de la journée, c'est quoi que tu veux? Tu veux faire les séries, tu veux gagner. Puis écoute, c'est sûr qu'avec un Bregman, ça fait que ton plus haut salarié ou presque pèse, il jouera pas. il sera pas irrégulier. Mais bon, ouais. Ça, c'est, faut l'avaler. Là, je pense qu'on a réalisé l'erreur qu'on a faite à ce niveau-là. D'ailleurs, on aurait pu leur dire lorsqu'il avait signé, mais bon. Mais je trouve ça le fun d'avoir des équipes de la centrale bouger de la, shop, de la sorte. On pourrait parler des Reds dans la nationale, mais je trouve ça le fun de voir les équipes de la centrale bouger parce que, tu sais, Alain, de faire les séries qui est important parce qu'une fois qu'il est dans la série, tu le sais, tout peut arriver. Puis là, à ce moment-là, on peut bouger. Mais moi, je m'attends, si Bregman se retrouve avec les Tigers. Ben, ça va être, comme j'ai mentionné, ça va être un contrat de 2 ans ou 3 ans maximum. Ça ne sera pas le 6 ans qu'ils cherchent là. C'est 3 ans maximum, mais avec ce qu'on appelle des opt-out. Là, donc, après une première année, il va pouvoir sortir. C'est ce que Boris fait beaucoup avec les joueurs. Puis, tu sais, Alain, il ne faut pas faire l'erreur de signer une fois que le camp d'entraînement a commencé ou au pire, une fois que la saison a commencé. Je pense que tout le monde a appris de l'année dernière, là. Alors là, c'est pour ça que j'ai l'impression que les contrats qui s'en viennent, on n'en verra plus des contrats de 5-6 ans. Là. Ça va être des contrats avec beaucoup d'options de sortir du contrat.
Marc, avant de passer à la fin de ce premier bloc, je veux qu'on parle de Kim, Ha-Seong Kim, qui a signé avec les Rays de Tampa. J'en ai parlé dans les balados précédents, lorsque le marché des joueurs autonomes a commencé. C'est un joueur, bon, il y avait Adames, qui était en haut de ma liste, et j'avais Kim comme deuxième choix. Kim s'en va à Tampa. Tampa, encore une fois, qui vient d'en passer peut-être une vite. Mais Marc, je me dis, il y a peut-être des rapports sur l'état de l'épaule de Kim qui a inquiété plusieurs équipes. Je trouve pas ça normal que ce gars-là, avec la qualité de son gant, avec un bâton adéquat, que ce gars-là se retrouve avec un contrat de 2 ans seulement. Moi, j'ai l'impression que son état de santé a fait peur à beaucoup d'équipes.
Oui, bien d'accord avec toi à ce niveau-là. Moi aussi, je m'attendais à un marché beaucoup plus volubile avec Kim. Et effectivement, il y a des détails qui nous échappent, c'est clair. D'ailleurs, il commencera pas la saison à ce niveau-là, mais... écoute, il revient par contre en santé. Peut-être le fait justement qu'on n'est pas sûr s'il va même, tu sais, où il va commencer quand exactement. Mm-hmm. Bon, on voulait peut-être un peu plus de stabilité chez les autres équipes, mais effectivement, les Rays, en signant pour 2 ans, ben au moins on s'assure peut-être de quelque chose à ce niveau-là. Chaque fois que les Rays signent quelqu'un, tu sais, t'as l'impression qu'ils en ont effectivement passé une petite vite, mais t'sais, tu regardes le marché, Alain, il y a beaucoup d'argent qui vont à certains joueurs, mais après ça, ça se calme pas mal. C'est pas. Mm-hmm. Ouais. On va en parler dans le prochain bloc là, de l'histoire des Dodgers de Los Angeles, mais on va sortir des chiffres, mais ça va surprendre. Mais toujours est-il que j'aime ce que les Rays ont fait durant l'hiver. Là, encore une fois, c'est pour ça que les Blue Jays doivent réagir encore. Ils ont fait des bonnes choses, là. On doit continuer de le faire si on veut rester dans la course, parce que ça va être toute une division encore une fois cette année.
Ben oui, comme d'habitude. Ben, c'est le temps de la question de la semaine présentée par Sylmer Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voitures et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmer.ca. C'est pas compliqué, on a parlé des Blue Jays. Est-ce que l'âge des lanceurs partants des Blue Jays vous inquiète? On vous demande de vous adresser, sur notre site internet comptecomplet.com, notre page Facebook également, et c'est facebook.com/comptecomplet/balado. On vous invite donc à vous prononcer sur cette question alors qu'on s'approche du début des camps d'entraînement, à peine 2 semaines.
Alain, je rappelle à nos auditeurs notre partenaire Plan de Match, qu'on remercie d'ailleurs, notre partenaire principal, Boutique. Plan de Match est à Boucherville. On entend des petites rumeurs qu'il y a aussi un petit Plan de Match qui va ouvrir dans le coin du Saguenay. Alors ça sera à venir, donc des choses intéressantes. Mais allez, la boutique en ligne, si vous êtes dans le coin de la rive sud de la région de Montréal, à Boucherville, cage de frappeurs, cours privés, des cours aussi en groupe, tout ce que vous voulez pour le baseball. Donc, Plan de Match, on les remercie. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur notre balado ou tout ce qui se passe autour de Compte Complet, allez visiter notre site internet www.comptecomplet.com.
Marc, y a des propos qui m'ont fait sursauter au cours des 2 dernières semaines, et ça vient de du fils de George Steinbrenner, Hal Steinbrenner, je le précise, parce que George Écoute, quand on a eu la première cuvée, les premières cuvées de joueurs autonomes dépensaient et on disait que c'était pas très bon pour le baseball. Et là, je cite Al Steinbrenner, on n'est plus capable de suivre les Dodgers.
Ouais.
Si les Yankees sont rendus là, alors Marc, ils sont pas à plaindre, ils font partie des gros marchés encore, mais ça démontre quand même la disparité croissante, encore une fois, entre les grosses équipes. Ça va s'arrêter où?
Ouais.
J'entends ça depuis, Marc, depuis la première cuvée des joueurs autonomes. Autrement dit, ça fait presque 50 ans qu'on se dit que ça va arrêter à un moment donné. Est-ce qu'on est proche de la fin ou...
Écoute, Alain, c'est sûr que ça expose le problème. Et n'oubliez pas que la convention collective se termine après la saison 2026. Alors, ça s'en vient, là.
Ouais.
Et c'est vrai qu'à chaque convention, on se dit ça. Là. Mais là, écoute, je sais que ça fait... l'hiver, c'est toujours pire. Parce que c'est les gros contrats. C'est les Juan Soto. Là. C'était Shohei Ohtani, c'était Aaron Judge auparavant. Là, c'est Soto cette année. Puis là, ben 700 millions, puis on atteint des chiffres qu'on pensait jamais entendre. Mais Alain, tu gratte un peu, là. C'est 50% des joueurs qui font 1,5 million et moins. En 2024, là, c'est des chiffres qui sont récents, là.
Ouais.
Fait que là, autrement dit, ce que je veux dire par là, là, c'est que, puis ils font pas pitié, là, mais on parle en termes baseball, là, en termes de sport professionnel, 1,5, c'est beaucoup d'argent, mais tu sais, on entend que c'est pas bon. Alors, t'es dans le vestiaire, là, puis toi, tu fais comme la moitié des joueurs du baseball majeur, au-dessus de 1000 joueurs qui ont joué dans le baseball majeur en 2024, fait 1,5 million, puis le gars à côté de toi, il fait ça par match. J'exagère à peine, là, puis je parle des Soto, puis je parle des... Fait que, tu sais, c'est que là, il y a non seulement une disparité en termes d'équipe, je regarde les Marlins, puis je regarde les Dodgers, là, Alain, là, c'est deux mondes. On est deux mondes différents, mais là, tu vas avoir un joueur qui fait 45, 50 millions par année, puis t'as le trois quarts de ton équipe qui va faire en moyenne, en bas, tu sais, je veux dire, autour de 4 millions. C'est quoi la moyenne maintenant, Alain?
On est autour de 4,5, ça va augmenter un peu, là, mais on est autour de 4,5, et ça, à quoi tu faisais référence, la médiane, ben, c'est ça, le 50% plus, 50% moins, là, c'est 1,5.
Bon.
Ça veut dire que les hauts salariés tirent la moyenne vers le haut pas mal, là.
Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, c'est qu'il va falloir que tout le monde se regarde dans le miroir et me dire, c'est parce que t'as pas d'allure. Tu sais, Juan Soto, il est bien bon, là. Il est super bon, puis tu sais, qualité de joueur, de frappeur, surtout, là. Mais tu sais, puis je sais qu'il attire du monde, les gens veulent aller le voir jouer, puis j'ai pas de problème à ce qu'il fasse plus d'argent que les autres, là. Ben, écoute, y a-tu moyen que ça soit pas aussi, tu sais, aussi élevé ou... Fait que je trouve que le problème n'est pas juste au niveau des joueurs, il est au niveau des propriétaires. Parce que là, tu as des propriétaires. Imagine-toi, là, si Al Steinbrenner dit ça, qu'est-ce que les propriétaires des Pirates, des Royals, des Reds se disent, eux autres? Tu sais, je veux dire, si toi, tu dis qu'on n'est plus capable de suivre les Dodgers, nous autres, on n'est pas capable de suivre depuis 50 ans. Là. Fait que il va falloir un ménage. Mais le ménage passe-t-il vraiment par un plafond? La réponse est probablement que ça aiderait énormément, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas avec l'association des joueurs, à moins qu'il y ait un conflit de travail épouvantable qui dure pendant un an. Tu sais, je veux dire. Mais il faut, selon moi, il y a des choses qu'on pourrait. Il y a des solutions, selon moi, qui pourraient apporter à ça. Tu sais. Est-ce qu'on pourrait pas justement baisser le montant de la taxe de luxe? C'est-à-dire que si tu atteins 200 millions, tu payes déjà une taxe, puis tu obliges les équipes, Alain, qui reçoivent des montants très importants, tu les obliges à mettre cet argent-là que vous recevez de l'industrie même là, dans la masse salariale. Mais combien de propriétaires qui prennent ça puis qui ne le mettent pas dans la masse salariale, là, tu sais? Fait que là, il y a des choses, je pense, qui pourraient fonctionner, mais où je trouve que là, ça s'en vient dangereux. Tu sais, je blâme pas les Dodgers, là, parce que, tu sais, ils font leur devoir, puis ce sont les règles, puis c'est correct. Et moi, j'aime mieux qu'on tire vers le haut que qu'on tire vers le bas. Mais où j'aime moins où ça s'en va, c'est que là, le baseball, qui est un sport, excusez l'expression, mais qu'on disait « family and fun », là, tu sais... Hey, là, on va-tu pouvoir se le permettre, là? T'sais, à un moment donné, là, ça devient extrêmement dispendieux parce que pour quelqu'un faut que quelqu'un paye pour qu'on puisse payer ces salaires-là. Là.
Oui, juste un petit bémol là-dessus, par contre, Marc, là, sur le plan, et ça, ça ne vient pas de moi, là, et vraiment, on a assisté à plusieurs présentations d'économistes, là, le prix des billets, et je sais que c'est une croyance qui est forte, n'a rien à voir avec le salaire des joueurs. Ça dépend des marchés. Ça dépend des marchés. Sinon, c'était relié au salaire, ce serait le même prix partout. Donc, tu sais, tu baisses les salaires de moitié demain matin, Marc, je te garantis que les prix ne baisseront pas au Yankee Stadium.
Ben, écoute.
C'est une question de marché.
Ouais. Ben, mais là, que tu me dises que ça n'a aucun rapport, là, je serais pas d'accord. Il y a sûrement un lien quelque part, mais en tout cas, on pourrait s'obstiner longtemps là-dessus. Mais non, tu comprends ce que je veux dire, c'est que.
Ouais.
Que ce soit le prix ou que ce soit le hot dog que tu achètes, là, qui est rendu. Ben, bon, tu comprends? Il y a un moment donné, c'est sûr que. C'est là que je veux. Mais c'est pas là. La priorité, c'est vraiment. Mm-hmm. En fait, la priorité, Alain, serait qu'on crée. Qu'on crée une ligue où il y a plus de parité. Il faut que ça soit... Tu sais, je veux dire, tantôt, on parlait de la centrale, puis c'est le fun d'avoir la centrale, mais tu sais, la centrale, là, heureusement que les équipes de la centrale se comportent un peu de la même manière que les équipes sur les côtes, parce que il n'y a pas de, tu sais, il y a pas de, gros... Tu sais, les Juan Soto, là, ce sont pas... c'est pour, tu sais, ou Shohei Ohtani, ou... peu importe les gros contrats qui se sont donnés, il y en a beaucoup moins dans la centrale. Alors, ça leur donne une chance. Mais tu sais, Alain, à un moment donné, il va falloir jouer sur le même terrain de jeu. Là. Puis,
le modèle devrait être la NFL, Marc. Dans les centrales, bon, les deux gros marchés, il y a deux équipes qui sont dans la même ville, qui sont à Chicago, mais ça démontre que si tu as un deuxième étage tout croche, surtout dans l'américaine, là, que ça se peut que ça marche pas. Tu sais, du côté des Cubs, on a les moyens, Marc, mais tu sais, on a fait la même erreur que les Phillies. On a laissé vieillir le noyau trop longtemps. Rappelle-toi, avec les Phillies, Marc, cette belle équipe de 2007 à 2011, on a fait la même erreur avec les Cubs, avec les Bryant, avec les Rizzo, puis regarde, on s'est retrouvé gros gens comme devant. C'était ça l'erreur des Cubs, de ne pas être capable de se renouveler. Quant aux White Sox, ben regarde, Jerry Reinsdorf, quand tu as regardé dans le miroir, ça c'est...
Bon.
Mais, puis je veux juste faire le parallèle avec ce que tu dis, une question de parité, que la NFL devrait être le modèle. Regarde, c'est qui le joueur de l'heure dans la Ligue nationale de football? C'est Pat Mahomes, on va s'entendre là-dessus. Joue pour qui? Joue pas à New York. Tu sais, joue pas à Green Bay, c'est une des équipes les plus célèbres dans la Ligue nationale de football. Pas parce que c'est un gros marché. Mais les bons joueurs vont attirer l'attention, peu importe où ils vont jouer. C'est pas compliqué, là. Oui, à New York, tu vois peut-être comme Joe Namath, tout le monde se rappelle de lui. Il a été bon, mais pas si bon que ça, mais tout le monde s'en rappelle. Mais ça n'empêche pas que Pat Mahomes, actuellement, Pat Mahomes, regarde, c'est le visage de la NFL, puis il joue à Kansas City.
Ouais, mais tu sais, Alain, les revenus, ce sont des revenus nationaux.
C'est ça.
Donc, mais partager, autrement dit, faire un dessin, c'est que tous les revenus s'en vont dans un pot, puis on distribue. Ce qui n'est pas le cas dans le baseball.
Voilà.
Alors, chaque
ça
marché...
pourrait changer, Marc. Ça pourrait changer avec les changements sur la façon dont les matchs sont diffusés. C'est là où ça peut se développer autrement, Marc. Puis, certains distributeurs là, qui ont eu des difficultés financières. Donc, la Ligue a pris sous contrôle certaines équipes. Moi, je pense que ça pourrait amener à une équité. Et là où ça pourrait poser des problèmes, c'est est-ce que les Yankees, ça leur tente de négocier sur le plan national? Les Dodgers, la même chose. Les Blue Jays, la même chose, eux qui ont le Canada au complet. Il y a des dossiers importants, Marc, d'ici 2028, là, qui vont être à régler dans le monde du baseball.
Ouais, en fait, ce que tu dis, Alain, ce qui est intéressant, c'est que moi, je pense qu'il y en a des pistes de solutions. Ouais. Et il va juste falloir les trouver, les exploiter un petit peu plus. Mm-hmm. Parce que, tu sais, les Dodgers, tu sais, la question, est-ce que c'est bon pour le baseball ce qu'on est en train de voir, là, tu sais, parce que c'est une équipe de toile, là, on est en cas, je veux dire.
Ouais.
Là, les prédictions, là, de à Vegas, tout ça, là, on parle de 117 victoires avec la formation, qu'ils ont sur papier actuellement, là. Fait que, tu sais, on est ailleurs. Je sais pas ce qu'on a dit sur les Marlins ou les White Sox, mais bon. Ça pour dire qu'on est dans deux mondes complètement différents en ce moment. Puis, tu sais, c'est clair, là, qu'à un moment donné, là, on aime le baseball, tu sais, on va suivre ça, des fois, peu importe, là, ce qui se passe, mais, tu sais, à quelque part, ça prend de la parité, puis, encore une fois, je dis pas que c'est mauvais ce que les Dodgers ont fait, mais tu sais, de mettre sous contrat, je veux dire, tous ces joueurs-là, à un moment donné, ça devient... Je ne suis pas sûr que ça devient vraiment ce que tout le baseball, tous les marchés le recherchent.
La seule bonne nouvelle là-dedans que je vois, Marc, les Yankees, quand ils dépensaient beaucoup plus que tout le monde, Steinbrenner se foutait du reste du monde, puis du reste des équipes. Historiquement, les Dodgers ont été de bons partenaires dans le baseball majeur. Fait que je me dis, s'il y a des changements à arriver, je me dis que les Dodgers, probablement, en tout cas, si je me fie au passé, vont être de meilleurs joueurs d'équipe que si les Yankees, par exemple, étaient au milieu de ça. Moi, ce qui me rend optimiste quant à la suite des choses. Puis, je pense que ça va être inévitable de toute façon, compte tenu des changements sur le plan technologique qui s'en viennent. Mais on n'est pas encore rendu là. Puis moi, je ne suis pas sûr, Marc, des dangers de Los Angeles. Quand ce sera le temps d'évaluer les équipes, je regardais là, puis les Diamondbacks sont pas une mauvaise équipe pour dire ça, moi.
D'accord avec toi. J'aime moins ce qui se passe avec les Padres actuellement, mais effectivement, j'aime beaucoup le personnel de lanceurs des Diamondbacks. Ouais.
Bon, Marc, Cooperstown, trois nouveaux intronisés qui vont s'ajouter à deux autres à l'automne passé dont on avait parlé, dont Dick Allen. Là, Ichiro, presque unanime. Si, ça maintient. Billy Wagner, Marc, ça fait longtemps que j'en parlais. Il était dû pour être là. Je vais te lancer un autre en relève tantôt. Puis, Marc, je regardais, parmi les releveurs qui, bon, selon des critères de stats avancés que je regardais, qui ont fini parmi les cinq premiers de leur ligue, Wagner, bon, Mariano Rivera est dans une ligue à part, parce que jouer avec les Yankees, il y avait plus d'opportunités que quiconque, mais il a fait le travail. Bon. Mais Billy Wagner méritait sa place. Moi, je pense dans les trois, là, il méritait sa place. Dans le cas d'Ichiro, si on parle de la valeur, puis je sais que je vais me faire lancer des tomates, si on parle de la valeur sur le terrain du joueur, on pourrait débattre.
Ah, je suis d'accord.
C'est un gars qui ne se fiait qu'à ses couches. C'est un genre de joueur qu'on voit presque plus, là. Tu sais, c'est sa moyenne au bâton qui faisait foi de ce qu'il était capable de faire. OK, son jeu en défense. Son jeu en défense était excellent. Mais des joueurs qu'on voit presque plus. Il y a des joueurs, Marc, Andrew Jones, je pense à Andrew Jones, qui ont probablement été globalement meilleurs qu'Ichiro Suzuki. C'est juste que ce qu'il a apporté dans le baseball majeur, c'est là, quand on parle des impondérables, c'est peut-être là que ça rentre en ligne de compte. Puis, compte tenu de ça, je pense qu'il avait sa place.
Ben, écoute, regarde, moi, ce qui me fascine dans le cas d'Ichiro, c'est que, Alain, on parle d'au-dessus de 600 coups sûrs à l'avant-champ. Des coups sûrs à l'avant-champ, c'est pas toutes des amortis, là. C'est, tu sais, ce qu'on appelle, on slap la balle, ou on tient une balle bondissante, puis que c'est correct, ce gars-là quittait le rectangle. Fait que lui, il a exploité, tu sais, il avait une coordination au meilleur exceptionnelle. Dire, là, son taux de contact, bon. Il faut pas négliger, Alain, son jeu en défense, là. Tu sais, ce gars-là
était avec
un des bras les plus puissants et précis. Tu sais, donc, c'était un joueur complet, mais effectivement, on n'en voit plus beaucoup. Par contre, où je suis un petit peu d'accord avec toi, regarde les statistiques de Kenny Lofton. Regarde les statistiques d'Ichiro Suzuki. Là, vous avez, Ichiro Suzuki, aurait dû être unanime la première année, là, ben, d'admissibilité. Kenny Lofton, après une année, il avait pas eu le 5%. Mais regardez les statistiques des deux. Ça n'a pas d'allure.
Le WAR de Lofton, juste une quarantaine, le WAR de Lofton en carrière est supérieur à celui d'Ichiro.
Non, mais tu regardes le niveau des coups sûrs, on parle de deux voltigeurs, deux premiers frappeurs de rôle offensif. Je vais te dire, là, ça n'a pas de bon sens que Lofton ne soit pas resté sur les bulletins de vote puis qu'à la limite, il n'est pas une candidature. Bon, ça c'est un. Donc, je suis d'accord, Ichiro, il a été tellement bon pour le baseball. Ça fait partie des critères. Wagner, je suis 100% d'accord. Je suis tellement content. Ce gars-là, tu regardes les statistiques de Wagner, là. Wagner, il lançait à quel moment dans un match? Il lançait en fin de match, à chaque fois que ça comptait. Puis ça, là, c'est... Tu sais, je veux dire, tu peux avoir des releveurs qui ont des très, très bonnes statistiques, mais lui, c'était en 9e. Je suis content pour lui. Une famille de baseball, c'est extraordinaire. Et dans le cas de Cici Tabatière, content aussi que ce soit première année. Lui aussi, tu pourrais débattre de bien des manières, mais il a fait des choses... tu sais, moi, j'aime ça. J'aime ça d'avoir... un des critères là, que moi j'apporte beaucoup pour un membre du Centre de renommée, Alain, c'est d'être bon pendant longtemps. Ouais. Et Sabathia a été quand même très solide au cours de sa carrière.
Oui, un WAR très élevé en fait. Pour, il lançait beaucoup de manches. Ses coéquipiers l'aimaient beaucoup partout où il est passé. On parle de Aaron Baines souvent, là, puis comparatif chez les lanceurs, c'est Jack Morris. Là. Donc, tu comprends, puis Sabathia était pas mal meilleur que Jack Morris. Là. Marc, je veux qu'on revienne en arrière un peu. Il y a deux anciens instructeurs gérants des expos qui sont décédés au cours des dernières semaines. Tu les as côtoyés tous les deux. Je veux d'abord qu'on parle de Bobby Cuellar qui était là pendant un bon moment sous Philippe Allou comme gérant. Et tu étais descripteur, donc tu as eu l'occasion de côtoyer Cuellar pendant fort longtemps. Un bonhomme effacé, Marc, c'est pas le premier nom loin de là parmi les instructeurs qui vont nous venir à l'esprit quand on parle des instructeurs des lanceurs de l'histoire des expos.
Ah, effectivement, tu sais, mais tellement apprécié. C'est lui qui aimait travailler dans l'ombre. C'était ce type d'instructeur-là. Philippe prenait la place, puis Bobby faisait le travail derrière. Un chic monsieur, toujours très apprécié, probablement, là, tu sais, parce que. Évidemment, à l'époque, moi, je voyageais avec l'équipe, donc, tu sais, on avait des accès privilégiés, tu sais, c'était facile dans l'avion, à un moment donné, de juste dire, hey, comment ça va, puis où tu parles, tu sais, les joueurs, les lanceurs, puis savoir lire entre les lignes, qu'on appréciait beaucoup Bobby Cuellar, tu sais, je pense qu'il était très juste, très préparé, avec ses joueurs, et très... T'sais, ce que tu voyais, c'est ce qu'il était. Il était très réservé, mais si tu lui posais la question, on disait comment ça se passe, il va te répondre. C'est toujours des réponses bon, très, très songées, très brillantes. Moi, c'est une personne que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée, vraiment une bonne personne de baseball qui avait à cœur les succès, évidemment, de ses lanceurs. Puis, c'était évidemment très triste d'apprendre cette nouvelle.
Oui, et Jeff Thorburn, Marc, associé beaucoup à Jeffrey Loria. C'est lui qui avait succédé, en fait, à Philippe Allou. Il n'est resté à Montréal que pendant, quoi, une demi-saison avant d'être remplacé par le baseball majeur par Frank Robinson. Donc, Thorburn, qui a été gérant auparavant chez les White Sox et les Mets, receveur dans le baseball majeur, 3 matchs sans point Nico Sue comme receveur.
Oui, mais lui aussi, un vrai... Écoute, lui était très sympathique. Il était ami avec Loria et Samson, mais il était très sympathique. Et il savait qu'il arrivait dans une situation pas évidente. Et Philippe Allou, c'était Philippe Allou à Montréal. Mais je trouve que dans son comportement, il y a eu une transition intéressante qui s'est faite. Tu sais, c'était, il est pas arrivé, puis il a complètement bon tassé Philippe. Non. Philippe, ce qu'il faisait, c'est excellent, puis je respecte beaucoup, puis on va continuer dans... Tu sais, tu comprends, c'était le fun. Un homme de famille, sa famille était très importante pour lui. Il en parlait beaucoup lors de ses points de presse. J'ai eu l'occasion de rencontrer un de ses enfants, certes. Puis c'est un gars de baseball. Et tu l'as dit, puis c'est un autre ancien receveur, Alain, qui est devenu une tête dirigeante du baseball. Alors, je trouve vraiment que c'est deux décès à souligner parce que c'était vraiment deux très, très bonnes personnes et qui avaient à cœur évidemment le succès des joueurs. Puis, ils n'ont pas été trempés dans des situations très, très évidentes, là, surtout avec Thorburn à la fin du côté des expos.
Oui, bien écoute, tu l'as mentionné, Marc, il remplaçait quelqu'un qui était immensément populaire à Montréal. Oui. Je veux dire, il en était conscient quand il est arrivé.
Il en était conscient, absolument.
Oui.
Mais il y avait un travail à faire. Il y avait un mandat, puis c'est ce qu'il disait. J'ai un mandat à faire, puis j'ai quelque chose. T'sais. Alors, il tentait d'avoir la meilleure relation possible avec ses joueurs, avec l'organisation. Mais effectivement, il arrivait dans un compte de 2 prises là, dans sa situation.
Oui. Ouais. Ben, écoute, Marc, bon, 2 anciens expos qui partent, ça nous fait... Rappelez que les années passent, ça fait déjà 21 ans, Marc, que les expos sont partis et malheureusement, il y a quelques souvenirs comme ça qui nous reviennent lors de départ de certains membres de l'organisation des expos. C'est le temps de la carte de la semaine qui est une présentation de Card près d'uniondépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 14 000 articles en vente sur eBay. Rocky Sasaki, et c'est sa carte de recrue au Japon avec l'équipe des Lotte Marines. Chibal Ote Marines, carte de marque BBM de 2020, son année recrue. C'est pour ça qu'à Lando, il n'y a pas de statistiques. Il y en avait sûrement, là, bon, que ce soit au niveau scolaire auparavant. Sauf qu'il est arrivé là et déjà, Marc, on savait qui il était. Là. Sasaki, c'est pas juste dans le baseball majeur qu'il est arrivé avec un certain battage. C'était le cas aussi au Japon. Il y a cet ensemble-là, BBM, compte 600 cartes. C'est comparable à ce qu'on trouve aux États-Unis. C'est pas surprenant, là, le monde dans son ensemble est devenu global. Donc, ce qui se fait au Japon, ce qui se fait aux États-Unis, on regarde ce qui se fait de mieux, puis on essaie d'englober tout ça. Et il y a certaines cartes qui ont été commercialisées aux États-Unis, donc il y a quelques informations en anglais, mais c'était émis pour le public japonais. D'ailleurs, petite parenthèse, Marc, je te parlais de la globalisation du baseball. Et une équipe japonaise dans la série des Caraïbes année. écoute, je suis pas sûr qu'on est de calibre. Là. Je regardais les joueurs qu'il y avait au sein de cette équipe-là. Le plus connu, c'est... Tu te rappelles de Kawasaki, ce jeune dynamique là, qui avait joué avec les Blue Jays de Toronto et qui était devenu très populaire. C'est le seul véritable connu de la part de cette équipe japonaise-là qui tente tant bien de mal là, de survivre, Marc. Mais tu sais, ce sont des joueurs de ligue indépendante qui se frottent à des joueurs aguerris qui ont touché au baseball majeur. Écoute, Marc, je sais pas là, mais si tu amenais les capitales de Québec là-bas, même une équipe d'étoiles des capitales puis des aigles de Trois-Rivières, tu pourras peut-être me préciser un peu ça. J'ai beaucoup de respect pour tout ce qui se fait avec les capitales, mais ce serait peut-être ce serait tout un défi là, relever d'aller jouer dans ce calibre-là. Là.
Surtout le Mexique va très, très bien, d'ailleurs, hein, dans ce tournoi-là. Et pour revenir à Sasaki, écoute, il n'a pas lancé encore dans le baseball majeur. Puis déjà, on le place parmi les meilleurs lanceurs. Alors, j'ai hâte, écoute, il arrive avec un peu de pression, on va se le dire. Là. C'est tout un gars, tout un lanceur. J'ai hâte de voir comment ce gars-là va se comporter. Dans le baseball majeur, mais il arrive avec une feuille de route assez impressionnante. C'est pour ça que les Dodgers ont un papier personnel de partant, on va se dire. Enfin, ils en ont deux personnels de partant là, à ce niveau-là.
Favori comme recrue d'année avant que ça commence, mais je ferais bien attention à Dylan Cruz, moi, avec les Nationals de Washington. Je sais que ses stats n'ont pas été si spectaculaires l'année passée, mais c'en est un qui a des outils, ça, Marc, pour briller dès l'année prochaine. Voilà ce qui complète ce compte complet. On met un peu la table là, en vue du camp d'entraînement qui commence. On a quelques surprises pour vous au cours des prochaines semaines. On vous invite à être à l'affût. Il y a d'autres entretiens aussi qui seront ajoutés au fil des prochaines semaines. Donc, on continue à suivre ce qui se passe dans l'actualité baseballesque. Alain Giroux et Marc Griffin, on vous souhaite de passer du bon temps en attendant le début des camps d'entraînement. Voilà, prenez soin de vous. À la prochaine.
Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.